Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, les journalistes Christine Ockrent et Gérard Courtois, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, le politologue Dominique Régnier, et le directeur du think tank Terra Nova, Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 19 mai, élections européennes, défiance ou indifférence, et soldats tués au Sahel, la France en quête d'héroïsme. Dans une semaine donc, à cette heure-ci, les bureaux de vote seraient ouverts. On irait voter, déjà ou enfin, pour ces élections européennes qui avaient donné lieu à une bien étrange campagne, tardive et plutôt confuse. Ces élections intervenaient dans un contexte historique de ce qu'il fallait appeler défiance et ou indifférence. L'Europe payait ainsi des décennies durant lesquelles des dirigeants français disaient « Bruxelles nous impose » pour évoquer des décisions auxquelles ils avaient de fait participé. Tant pis pour elle, cette Europe qui garantissait aussi ce bien si précieux qui s'appelait la paix. Tant pis pour l'Europe qui avait permis à tant d'États membres de voir s'améliorer leurs conditions démocratiques et économiques. Tant pis pour l'avenir aussi, car sans l'Union européenne, que serait demain chacun des pays qui la constituait, replié derrière ses frontières? Que pèserait seul un État membre dans le tourbillon de la mondialisation et face à la concurrence de grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde? En France, comme dans les pays voisins, l'abstention s'annonçait massive. 6 Français sur 10, disaient les sondages, un taux d'abstention supérieur à celui des dernières européennes en 2014. Il fallait dire aussi que le débat public des dernières semaines ne les avait pas beaucoup aidés. Les gilets jaunes, le feuilleton du grand débat national, l'attente des annonces d'Emmanuel Macron, l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'affaire des otages avaient occupé tout l'espace. Sans oublier l'inévitable jeu des partis qui voulaient faire de cette élection un référendum pour ou contre le pouvoir en place. Alors il fallait plus que jamais tendre l'oreille pour continuer d'entendre Robert Schuman le 9 mai 1950 donnant le coup d'envoi d'une aventure européenne qui, avec les années, était devenue comme sa voix, fragile et abîmée.
Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Dominique Régnier, vous dites défiance ou indifférence des Français à ce scrutin des européennes ?
Une forme d'indifférence. Plutôt, s'il faut choisir entre ces deux termes, mais la campagne ne les aide vraiment pas à s'intéresser aux européennes. En tout cas, moi, ça me frappe beaucoup. C'est bien sûr, comme à l'accoutumée, une campagne très nationale. On l'a maintes fois observé. Les candidats s'attribuent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. En parlant de ce qu'ils envisagent de faire. Ça ne correspond pas à l'architecture du système européen. Cette campagne est prise, et d'ailleurs un peu par l'ensemble des organisations politiques, dans une espèce de galop d'essai de l'élection présidentielle. Enfin, tout ça est très dommageable, parce que les Français, moi j'en suis convaincu, dans leur généralité, ne se trompent pas là-dessus. On peut pas les tromper là-dessus. On peut pas les faire venir aux urnes si on ne leur parle pas de l'objet en question. Je ne dis pas que l'Europe, si elle était l'objet principal de cette campagne, l'objet unique même, ferait disparaître l'abstention. Mais ce décalage entre ce qu'il est question de faire, c'est-à-dire participer à la désignation du seul Parlement au monde, qui soit transnational et désigné par les peuples, c'est quand même la seule chose aujourd'hui. C'est la pointe extrême de ce qu'on peut faire sur le plan démocratique. Inédit dans l'histoire, sans équivalent aujourd'hui. Et nous fêtons l'anniversaire de ce Parlement européen issu du suffrage universel, 1979-2019. Et tout ceci semble presque désintéressé, et en particulier les jeunes générations. Ce qui, chacun le sait, au dernier scrutin, pour les 18-24 ans, se sont abstenus en Europe dans une proportion qui est de 75% à peu près. Un scrutin aussi porteur d'avenir n'intéresserait pas ou n'intéresserait moins les nouvelles générations. Donc il y a là une très grande difficulté et qui obligerait nos responsables politiques à inscrire dans une échelle véritablement européenne de telles élections. Personne ne joue ce jeu et ça ne peut pas correspondre, je dirais, à un cadre mobilisateur pour les électeurs français.
Gérard Courtois, prenons les principaux candidats pour essayer de voir s'ils ont su, malgré tout, imposer des thématiques de campagne. Prenons par exemple la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella. Est-ce que est passé la rampe ce discours qui consiste à dire que mieux que le Frexit aujourd'hui, il y a l'Europe des nationaux populistes ?
Ce qui me frappe dans le, et pour prolonger ce que disait Dominique, c'est que au-delà des facteurs d'indifférence ou de distanciation ou de peu d'appétit des Français pour ce scrutin, il y a aussi une espèce de en apparence en tout cas, une espèce de convergence des thématiques. Toutes les listes se veulent plus écologistes que les écologistes. Toutes les listes se veulent, d'une manière ou d'une autre, protectionnistes. Donc, sur des thèmes centraux qui étaient auparavant discriminant, on a une sorte, alors je ne sais pas si c'est le marketing politique des uns et des autres et qui conduit à cette espèce d'homogénéisation avec évidemment des variantes et des variations, mais je trouve qu'on a, ça ajoute à la confusion d'avoir une sorte de convergence des thématiques.
C'est-à-dire qu'il y a des mots obligatoires, écologie et souveraineté, des mots interdits comme fédéralisme.
Absolument. Mais moi, je serais prudent quand même sur la suite des événements et les résultats de ce scrutin. Prudent pourquoi ? Parce que on a effectivement l'impression que cette campagne est atone, que les Français se tiennent à distance pour les raisons que Dominique a énoncées et d'autres qu'on peut sur lesquelles on pourra revenir. Il y a quand même deux facteurs qui ont puissamment été à l'œuvre lors des élections à la fois primaires et présidentielles de 2016-2017. Et qui peuvent bousculer les choses. Pas seulement à la marge, me semble-t-il, d'ici le 26 mai. Le fait que les électeurs se prononcent de manière de plus en plus tardive. Et comme en plus la campagne a démarré il y a 8 jours, grosso modo, on va avoir 10 jours de campagne encore.
Très intense.
Oui.
Subitement très intense sur des thématiques réellement européennes.
Et deuxième facteur dont on a vu l'importance en 2016-2017, c'est les débats télévisés. Alors, ça paraît ridicule qu'on mette 14 candidats, 12 candidats, 9 candidats, 6 candidats sur un plateau de télévision à 3 jours du scrutin, mais c'est ce qui va se passer. On a un débat à 6 plus X.
En deuxième partie de soirée, certains d'ailleurs du coup ne voulant pas
France
venir.
France 2, on a un débat à, je crois, 12 sur BFM le lendemain, mercredi, et entre les deux, un débat organisé par France Info, Terra Nova,
avec Terra Nova,
et Les Échos le mercredi matin. Donc on a 3 occasions, et on a vu en 2016-2017 à quel point une émission de télévision, un débat télévisé, fût-ce à 12 ou 14 ou 11, pouvait déclencher une dynamique de campagne pour l'un ou pour l'autre.
Alors, parce que précisément, à l'occasion de ces émissions, on arrive à distinguer, à établir des divergences et des convergences entre les différents programmes. C'est ce que j'aimerais qu'on essaye de faire un peu ce matin dans ce studio. Alors, si l'on prend les principaux, j'ai essayé de commencer cet exercice-là avec Gérard Courtois, je n'ai pas réussi, j'aurais peut-être plus de chance avec vous, Thierry Pech. Est-ce que ce thème majeur du Rassemblement National, qui est aujourd'hui de dire mieux que le Frexit, il y a l'Europe des nationaux populistes, c'est quelque chose qui a franchi la rampe? Est-ce que c'est quelque chose, qui a été entendu par l'électorat français?
Non, ce qui est entendu par l'électorat français, c'est que le Rassemblement National, hier le Front National, a renoncé à ce qui pouvait effrayer ou diviser son propre électorat, c'est-à-dire la sortie de l'euro. Ça leur a coûté cher en 2012, ça leur a coûté cher à nouveau en 2017, et probablement ça leur a coûté un score qui aurait été encore plus élevé en 2014 lors des précédentes élections européennes. Donc Philippot est sorti, cette idée est rangée sur les étagères, on arrête les frais. C'est ça l'idée.
C'est deux candidats aujourd'hui, le Frexit,
voilà.
C'est Asselineau, Monsieur Philippot.
La stratégie du cheval de Troie, qui consiste à dire on n'est plus pour la sortie de l'Europe, on n'est plus contre l'Europe, on va aller dedans pour la détruire de l'intérieur, pour la remettre à l'aplomb d'une conception souverainiste, nationaliste, etc. C'est-à-dire tout de même pour la casser de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas perçu par l'électorat français. Ça, c'est, je dirais, le scénario stratégique de repli d'un parti qui sait qu'il ne peut pas faire campagne contre cet objet-là parce que les gens ne sont pas des euro-enthousiastes, mais ils ne veulent pas que ce soit mis en cause, que l'appartenance à l'Europe soit mis en cause. Du coup, c'était bon. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très bien perçu, c'est l'abandon du Frexit, et il y a quelque chose qui n'est pas compris dans l'électorat, qui est cette stratégie du cheval de Troie, qui d'ailleurs a des limites très rapides, parce que je l'ai souvent dit à ce micro, il n'y a pas d'international des nationalismes. Ça n'existe pas. Salvini et Marine Le Pen peuvent s'embrasser publiquement en haut des tribunes. Demain matin, ils se déchireront sur la frontière à Vintimille. L'un veut la fermer, l'autre l'ouvrir. Et des sujets comme ça, il y en a pléthore.
Ils ne sont pas arrivés à désigner un candidat commun pour la présidence de la Commission. Ils ne vont plus se mettre d'accord.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres exemples. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pour qu'une élection intéresse, il faut bien sûr que des personnes s'y révèlent. Alors là, la télé peut aider, mais la télé n'a révélé que des personnalités. Elle n'est capable que de ça. Elle n'est pas capable de faire ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une dynamique, quelque chose de plus dense, c'est-à-dire installer une controverse autour d'un sujet donné. Alors, de fait, je crois que Gérard a raison. Il y a une espèce d'alignement des propositions assez averses au risque, qui consiste à faire dire à tout le monde « protection ». Sur les frontières, c'est protection. Sur le marché, l'économie, le commerce, c'est protection. L'écologie, c'est aussi protection. Tout le monde s'est rangé à cette idée qu'il fallait promettre la protection aux Européens. Mais quant aux Français, je crois que le problème, c'est que tout le monde se demande à quoi ça sert et si ça va vraiment changer quelque chose.
Alors, continuons de dérouler les programmes des uns et des autres. Parlons avec vous, Christine Ockrent, de la campagne de Nathalie Loiseau. On avait beaucoup entendu que l'Europe devait être la matrice du macronisme. Est-ce que cette campagne a été l'occasion de le démontrer ?
Les affiches le prouvent, puisque c'est le président de la République lui-même qui se met en avant et qui assume donc cet engagement européen qui a fait, à mon sens, l'originalité de sa campagne pour l'élection présidentielle. Et donc, il l'assume et il persévère. Mais ce qui me frappe
sur le plan des idées, vous avez entendu réellement une cohérence du macronisme européen ?
Il y a toujours cette idée, comme le rappelait Thierry Pêche, que l'Europe doit protéger. C'était, vous vous en souvenez, l'une des propositions d'Emmanuel Macron, encore une fois au moment de la campagne présidentielle. Mais ce qui me frappe dans nos échanges, c'est que au fond, on se dit toujours la même chose tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on se dit, oh là là, avec plus ou moins d'hypocrisie d'ailleurs, comme c'est triste, les Européennes, ça n'intéresse personne. Et finalement, ces débats télévisés, ça n'intéresse personne non plus. Et au fond, ce sont toujours les enjeux nationaux, les personnalités nationales, etc., etc. On entend d'ailleurs le même refrain dans d'autres pays, et pas seulement en France. Moi, j'étais très frappée par une formule de Jean-Claude Juncker, qu'on n'entend pas nécessairement sur ce registre, donc le président sortant de la Commission européenne, qui a dit « L'Union européenne a perdu sa libido collective ». Avouez que dans la bouche de notre ami luxembourgeois, c'est pas nécessairement...
Mais peut-être nous-mêmes devant notre porte, au moment où nous essayons là précisément de parler des programmes, nous n'en parlons pas vraiment.
Oui, mais l'enjeu, c'est l'Europe. C'est quelle Europe, quelle proposition pour l'Europe. Et encore une fois, tous les 5 ans, on a droit à la même chose. Et quand Thierry rappelle que le Front National, à l'époque, il y a 5 ans, qui... il faut quand même le rappeler, est sorti en tête, avec néanmoins cette proposition de sortir de l'euro, sinon de sortir de l'Europe.
24%, pour le rappeler pour les auditeurs.
Ce qui change, me semble-t-il, et ça nous ramène, je crois, à la question que vous posez, Émilie, c'est le fait que le niveau d'acceptation de ce qu'on appelle maintenant le Rassemblement National dans le paysage politique et dans le vocabulaire politique français a cette c'est élevé et c'est extraordinairement banalisé. Et donc là, on retombe sur cette idée, comme le disait Gérard, c'est qu'au fond, tout le monde parle de la même chose. Vous avez les mêmes mots-clés partout, donc l'écologie, parce que maintenant, le climat, les jeunes, la Greta suédoise, donc voilà. Maintenant,
il faut parler d'écologie. Il y a des mots-clés et il y aurait en même temps de réelles différences à souligner et à mettre en avant. Si l'on s'interroge, par exemple, sur la façon dont chacun des candidats parle de la frontière, est-ce qu'il y a là, par exemple, s'il n'y a pas là, par exemple, Dominique, une vraie différence entre ce que propose François-Xavier Bellamy et ce que propose la liste des marcheurs? Lorsque François-Xavier Bellamy propose de remettre des gardes-frontières à l'intérieur des frontières nationales tout en conservant, dit-il, les frontières de l'Europe, c'est une vraie différence, par exemple, avec ce que proposent les marcheurs. Mais est-ce que ça a vraiment passé la rampe?
C'est pas nouveau.
Est-ce que cela existe vraiment?
La même chose il y a 5 ans.
Est-ce que cela existe vraiment dans le débat public? Est-ce qu'on a essayé de comprendre ce que cela signifiait concrètement et réellement? Dominique
Régnier. Oui, non, ça fait une différence au moins dans l'énoncé des propositions et de ce qu'elles impliquent. Ça fait une très grande différence. L'oubli de la frontière, de mon point de vue, a été une des grandes erreurs de nos dirigeants depuis 25 ans. Le fait de déconsidérer l'importance que peut avoir la frontière, singulièrement lorsqu'on rentre dans ce monde globalisé, ça n'est pas raisonnable. Mais nous, les Européens, notre chance, c'est que nous pouvons penser une frontière commune. Et ça change beaucoup de choses, de penser une frontière commune. C'est une frontière qui ne nous sépare pas, c'est une frontière qui nous réunit. Donc ça a une dimension radicalement différente. À partir du moment où on propose une frontière commune qui vient encercler, en quelque sorte, des frontières particulières qui seraient réactivées, on sort très clairement du modèle européen. On est dans autre chose. On est dans une espèce d'intermédiaire entre une position européenne et une position de repli nationaliste. Et ça ressemble au résultat d'un effort intellectuel et politique pour trouver une visibilité dans un champ politique français polarisé, où on a d'un côté une liste clairement pro-européenne, la liste En Marche, et de l'autre côté une liste clairement anti-européenne, dans la confusion du rapport à l'euro qui est absolument inintelligible aujourd'hui, parce que là-dessus Marine Le Pen raconte n'importe quoi. Enfin, ce qu'elle dit sur l'Europe dans ses discours, c'est la fin de l'Europe quand elle en parle, hein. Mais malgré tout, elle veut rester dans l'euro. Donc, je sais que les gens n'écoutent pas vraiment et que ça n'a pas d'importance, mais c'est tout à fait confus. Eh bien, l'autre pôle, c'est elle, avec son discours clairement hostile à l'Europe. Et entre les deux, les candidats sont en peine, en fait, pour arriver à exister. Le compromis consistant à dire il faut une frontière commune et en plus des frontières particulières, ça désarticule...
Qui est grosso modo ce que propose François-Xavier Bellamy, la liste de François-Xavier Bellamy.
Voilà, ça désarticule quand même tout à fait le système. Moi, je crois que c'est le produit de l'effort de chercher une position intermédiaire entre les deux pôles. Hein. Et c'est ce qui manque d'ailleurs à cette liste. Je ne sais pas si on peut en dire un mot, mais c'est ce qui manque à cette liste. François-Xavier Bellamy, que l'on connaît ici, est une tête de liste très remarquable. Il fait une très bonne campagne à bien des égards, parce que il fait une très bonne campagne pour la droite. Parce que la droite retrouve une figure, ça a été dit, et c'est ça la grande découverte de cette droite. C'est une figure qui est présentable, qui est satisfaisante, qui est aimable. Enfin, ça change quand même de beaucoup de ces figures qui se sont succédées. Donc,
je comprends que ça vous soulage un peu.
Il y a ça, bien sûr. Mais ce qui manque, par contre, et c'est la limite de l'exercice, et on le voit dans la question de la frontière, ce qui manque, c'est une substance, c'est un discours profond, c'est un programme, une doctrine en quelque sorte.
Vous n'avez pas entendu non plus de substance, Thierry Pech, dans le discours ou le programme de François-Xavier Bellamy? Lorsqu'il parle, par exemple, donc, de retour des frontières, je le disais, des racines judéo-chrétiennes de l'Europe, est-ce qu'il ne revient pas au fond à un corpus idéologique clairement de droite qui s'était dilué avec d'autres?
Je voudrais dire deux choses. Une chose qui est, pour commencer, je pense que François-Xavier Bellamy... est un personnage inattendu dans ce paysage de la droite et pour tout dire
un
peu plus poli et présentable que le casting qu'on avait vu émerger dans cette partie du spectre politique. Mais il fait une campagne de droite pépère, si vous me permettez l'expression. Je veux dire, l'horizon de reconquête qui aurait pu être celui de cette liste, c'est le centre-droite humaniste. On ne peut pas dire qu'il ait même essayé d'aller le chercher. Il suffit pas de dire la droite et le centre. Et de fait, ce qu'on voit dans les dernières enquêtes, c'est un petit rebond de la liste En Marche au détriment des Républicains. Et pour cette raison, c'est que le centre-droite ne s'est pas senti appelé, accueilli, considéré par la liste de François-Xavier Bellamy, à l'exception de quelques personnages. Alors, poli, très bien.
Historiquement, ces deux droites se sont toujours divisées sur la question européenne.
En voyant quelques signaux, mais ne disant rien qui permettent à cette droite-là de s'y retrouver et d'y retourner. Je rappelle quand même qu'avec 13-14%, on dit « Oh là là, c'est formidable !» Oui, ils ont commencé à 8, mais 8, c'était artificiel. On savait bien que ce ne serait pas le résultat. Fillon faisait 20 en 2017. Et donc le processus d'écrasement des Républicains entre d'un côté la République en marche et de l'autre le Rassemblement national, il est toujours là. Alors je voudrais revenir au fond parce que vous nous y invitez, vous avez raison. Sur la frontière, qui est un très bon sujet pour marquer des différences. De fait, quand on creuse un peu, quand on fait l'effort d'aller dans les programmes et d'écouter les candidats, bien sûr qu'il y a des différences, vous avez raison. Sur la frontière, ce que dit François-Xavier Bellamy, qui disait déjà à ce micro, hein, là-dessus il n'y a pas eu de variation, c'est que les migrants, c'est très bien, il y en a qui ont vocation peut-être à nous rejoindre, mais on va examiner leur cas dehors. On va externaliser l'examen des demandes d'asile, on va faire des centres d'examen à l'extérieur. Ce qu'on fait déjà d'ailleurs, hein, puisqu'il y a
C'était les règlements de Dublin qui d'ailleurs n'ont pas du tout marché.
Non,
le
règlement de Dublin
ne
disait pas
ça. C'était
le
pays de première entrée, là, donc c'est à l'extérieur par rapport à la France.
Non mais à l'extérieur de l'ensemble européen,
c'est qu'on ne les fait même pas venir sur le sol européen.
C'est même pas... la proposition des Républicains, c'est faisons en sorte qu'on n'ait même pas à se poser les questions de Dublin, responsabilité, solidarité, etc.
Sans préciser d'ailleurs où seraient ces centres.
Ah ben c'est très simple. On l'a fait avec la Turquie pour les migrants syriens. On l'a fait avec la Libye, sans le dire, avec les milices libyennes, en mettant de l'argent sur ou sous la table pour qu'ils contiennent. Donc l'idée, c'est de transformer, c'est très simple, je vous expliquais, le Maghreb, le Machrek et la Turquie en cordon sanitaire pour empêcher les gens de venir directement en Europe et on examinera leur demande là-bas. Que disent les marcheurs? Ils disent ce que nous on proposait avec l'Institut Montaigne dans le rapport qu'on avait fait Terra Nova Montaigne sur la question. On peut faire des centres dedans. Et on va faire un système solidaire entre les Européens. C'est-à-dire que Dublin, il faut changer ça. Dublin, c'est la responsabilité, c'est ce que disait Christine, c'est le pays de première entrée se débrouille. Et tant pis si les contingences de l'histoire et de la géographie ont fait que l'Italie est en face de la Libye. Tant pis, c'est comme ça. Et la Tunisie, c'est tant pis pour eux, ils se débrouillent. Bon, ça ne peut pas durer. On l'a vu, ça a produit Salvini. Donc, il faut qu'on ait un système plus solidaire. Donc, voilà, là, il y a des différences. Et de ce point de vue-là, mon cœur ne balance pas.
Alors, si l'on tentait toujours, Gérard Courtois, et cette fois vous allez le faire, de résumer ou de synthétiser les programmes de ceux dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir cette gauche française qui se présente si divisée pour ces élections européennes. On sait que Raphaël Glucksmann a tenté de revivifier, c'est ainsi qu'il l'explique, la social-démocratie par l'écologie. On sait que Yannick Jadot, dans cette campagne, essaie d'incarner l'écologie politique canal historique, que Manon Aubry dit oui à l'Europe, mais avec le droit à l'insoumission. Là encore, est-ce qu'il y a des thématiques qui auraient pu donner lieu à de vrais débats, comme celui qu'on vient d'avoir, par exemple, sur la notion de frontière?
Eh bien, je crois que non. Je crois que non, en réalité, parce que ce n'est pas leur souci. Leur souci de survie politique, c'est de se compter. Ça explique l'éclatement. Alors, Thierry évoquait à l'instant les droits d'irréconciliables, mais alors du côté des gauches, on a atteint un degré d'irréconciliables dont je n'imagine pas dans l'immédiat et dans les années à venir qu'ils puissent être abolis.
Mais sur le terrain des idées, lorsque vous avez regardé ces programmes-là, est-ce que vous y avez lu de vraies innovations ou nouveautés sur le terrain des idées, précisément?
Nouveautés, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Différence, oui. Différence, bien sûr.
Alors, allons-y.
Non, mais elles sont parfaitement... elles sont évidentes depuis la campagne présidentielle de
Mais
de
rappelons Jean. Les évidences.
Eh bien, les évidences, c'est une France insoumise qui est d'un pied sur l'autre par rapport à l'Europe, parce qu'elle est à la fois dans une dénonciation ou dans une fonction tribunicienne qui, dans la forme, ressemble fortement à la fonction tribunicienne exercée par le Rassemblement National, dans l'opposition à l'Europe, dans le rejet de cette Europe, alors là, libérale, mais on n'est pas dans une... et par contraste avec un Raphaël Glucksmann qui se veut europhile, j'allais dire Eurobéa, c'est excessif, mais en tout cas dans une envie d'Europe, puisque c'est le titre de sa liste. Mais on est dans des postures qui renvoient aux gauches irréconciliables depuis très longtemps. Je veux dire, l'Europe a été un facteur de division à gauche, aussi bien qu'à droite, depuis 25 ans, voire au-delà, quand il y avait le Parti communiste. Donc, moi, c'est voilà, je suis pas. J'ai du mal à répondre à votre question, très honnêtement, parce que j'ai l'impression que ça n'est pas le sujet. En réalité, ça n'est ni le sujet des listes, ni le sujet des Français.
Regardez les programmes n'est quand même pas complètement inintéressant fin de campagne électorale.
Bien sûr, mais ça n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça va se jouer sur un vote sanction contre ou de délégitimation ou de relégitimation d'Emmanuel Macron, et ça va se jouer sur quelque chose de beaucoup plus diffus, mais profond, qu'évoquait Christine précédemment, qui est l'envie d'Europe, désir d'Europe.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'acter nous-mêmes dans ce studio qu'il y a une sorte de fatale indifférence au programme
Je ne crois pas du tout qu'il y ait
indifférence. Et aussi une certaine paresse médiatique comme politique.
Je crois qu'il y a une grande paresse programmatique. Et je crois que la difficulté que nous avons ce matin à nous intéresser à ces programmes, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Et que il y a des personnages, des personnalités qui essaient de se définir les unes par rapport aux autres, mais même, pardon Dominique, sur cette notion de frontière, il n'y a rien de concret. Et même Bellamy, l'idée, il faut rétablir des frontières. Ah bon ? Et alors comment on fait ? On embauche à nouveau des gardes-frontières, on les poste tout au long de la frontière entre la Belgique et la France. Enfin, c'est une vue de l'esprit. Et je crois que la difficulté que nous avons, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des propositions. C'est en fait à chaque fois une grande confusion. Et c'est plutôt par rapport à une idée floue de l'Europe, et c'est d'autant plus paradoxal que cette fois-ci, ces élections sont très importantes. D'abord parce que, comme le rappelait Dominique Régnier, le Parlement européen est une institution unique en son genre et férocement démocratique et transnationale. Mais en plus, il y a la question des postes à remplir, et c'est là où sont les véritables enjeux. Donc on aimerait que ces différents candidats disent « Ah ben tiens, pour le poste de président de la Commission européenne, ce serait intéressant d'avoir tel ou tel profil ». On n'entend personne là-dessus.
Oui, on sait bien que ça va pas se
passer. On n'entend personne là-dessus. Même sur, en effet, le débat institutionnel est fondamental dans cette histoire.
Mais cette année,
en regardant ce qui, dans les programmes, distingue les partis politiques qui continuent d'adhérer ou non à ces institutions européennes. Par exemple, dans le programme de la France Insoumise, qui rend possible la possibilité de brandir des cartons rouges par les parlements nationaux dès lors qu'il y a une décision de ce qu'ils appellent les institutions européennes qui ne leur conviendrait pas. Qu'est-ce que ça dit d'un rapport de la France Insoumise aux institutions européennes?
Non, alors ça, je vais commencer par répondre à la première question, puis je reviendrai à celle-là si vous voulez. Mais les Français ont quand même le sentiment qu'on leur demande de voter sur quelque chose qui n'a pas de pouvoir. C'est ça le nœud de l'affaire.
Alors que c'est l'inverse.
Non, alors, on a mis en place, en 2014, un truc qu'on appelle les Spitzenkandidat. En gros, on dit, le chef du groupe qui gagnera la partie au Parlement sera le président de la Commission. Hein, c'est ça l'idée. On sait que ça va pas se passer cette fois-ci. Et entre-temps, les Français, ils ont vu le spectacle d'une Europe qui est pilotée par les chefs d'État. Hein, c'est comme ça. Alors, à la fin, allez expliquer aux Français que c'est très important, que la face de l'Europe va changer si le Parlement est plutôt ceci, plutôt cela. Ils vont avoir du mal à le croire. Il va falloir entrer dans des finesses institutionnelles. Non, mais d'accord, on peut faire
on peut
le job.
Déjà on peut raconter déjà l'évolution du pouvoir du Parlement européen ces dernières années.
Ok, mais de fait, ils n'ont pas le sentiment que c'est une partie décisive. Voilà, ils ont le sentiment que la partie décisive va se jouer après sur le choix du président de la Commission et que le résultat de l'élection va pas être déterminant
sur
ce choix.
Est-ce qu'ils n'ont pas d'autant plus ce sentiment qu'on ne leur explique pas ?
Sur la France insoumise et son rapport aux institutions européennes, c'est un rapport faux cul. Ils ont les choses comme elles sont. C'est-à-dire, ils ont jamais voulu dire qu'ils voulaient sortir de l'Europe. Donc, ils ont inventé une espèce de rhétorique jésuitique pour dire on a un plan A, puis un plan B. Alors, c'est si le plan A marche pas, hein, à ce moment-là,
ça rappelle des souvenirs.
On verra le plan B. Le plan B, alors effectivement, à ce moment-là, fera peut-être sortir. Mais enfin, on va d'abord renégocier les traités. Mais allez-y, les amis. Renégocier les traités avec vos petits bras musclés. Là,
est-ce
tout
que
seul,
les Français savent suffisamment ce que ça veut dire, par exemple, renégocier les traités? Est-ce qu'on leur
explique
suffisamment
de choses? Ils ont le souvenir de ce qu'ont été certains traités. Je veux dire, ça a été compliqué, long, difficile. Ils ont le souvenir que, en 2005, ils ont rejeté un amendement considérable à l'ensemble des traités européens. Ils ont le souvenir de Maastricht. Enfin, bien sûr qu'ils savent que c'est compliqué.
Dominique Régnier.
Ouais, il faut rappeler que, quand on mesure dans la zone euro l'attachement à l'Europe et l'attachement à l'euro est très supérieur à l'attachement à l'Europe. et en France aussi. Ça signifie que ce dont les citoyens ont besoin, c'est d'une réponse à des problèmes très concrets et qui ne sont pas nécessairement des problèmes domestiques ou de petits problèmes. On peut difficilement passer beaucoup de temps collectivement et à raison à souligner l'importance du face-à-face avec la Chine, l'importance de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, de ce nouveau monde qui arrive. Et puis soudain, passer à une campagne électorale où il n'est jamais jamais question de cela dans les programmes, on n'en parle pas. On ne peut pas dire aux Français, on vous a expliqué que ça c'est des nouveaux mondes, que ça compte, on n'en parlera pas, on va vous parler d'institutions, moi je crains que ce soit un désastre, le désintérêt est légitime, c'est très très compliqué, et puis on va vous parler de politique intérieure. Mais ne pas parler, moi quand notre ami François-Xavier Bellamy, pour lequel j'ai de l'amitié, va en Grèce pour parler des racines de l'Europe, il a raison, mais il faut aller au Pirée, qui est acheté par les Chinois. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait collectivement? Est-ce qu'on est capable de poser un programme européen qui dise à nos compatriotes européens, voilà le monde dans lequel nous entrons, eh bien peut être plus heureux si nous sommes solidaires et si nous avons des plans à l'échelle de l'Europe, ou bien un désastre si nous ne savons parler que de cartons rouges que nous allons agiter dans nos parlements.
Oui, ce qui est très intéressant dans les sondages transnationaux, et il y en a eu plusieurs, très fouillés sur des échantillons très larges, c'est que l'on s'aperçoit que les priorités des électeurs européens, y compris les Français, qui ne sont moins différents qu'on a la coquetterie de le penser, des autres Européens. Qu'est-ce qui arrive en premier? Ce n'est pas l'immigration et le problème des frontières. C'est le pouvoir d'achat, harmonisation fiscale et sociale, chômage et climat. Et ensuite, l'immigration, donc le problème des frontières. Et ces préoccupations-là, on les retrouve à l'échelle des 27. Et les Français, de ce point de vue, collent parfaitement au même schéma que les autres Européens. Et là aussi, vous nous interrogez sur le programme des candidats. On donne quand même, soyons francs, l'impression qu'on ne les a franchement pas lus. Pourquoi? Parce que ces programmes ne collent pas non plus, semble-t-il, aux préoccupations majoritaires des Français. Ce qui est quand même un problème pour une élection à laquelle prétend se présenter un certain nombre de personnages.
Pour terminer sur une note positive, cette première partie de l'esprit public, vous les avez cités, mais c'est vrai qu'il y a eu par exemple tout récemment ce sondage Via Voice pour Libération qui a montré l'envie croissante chez les Français d'un rôle plus actif de l'Union européenne, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre le terrorisme, dans cet ordre-là, la politique concernant les migrations et une force protectrice justement contre les empires russes, américains, etc., avec une perception positive de l'Union européenne à 49% contre 37% d'avis négatifs. Est-ce qu'on pourrait aussi, Gérard Courtois, tenter une vision optimiste des choses et se dire que finalement, le feuilleton du Brexit ces derniers mois a été une manière comme une autre de parler beaucoup d'Europe.
Oui, mais si on veut vraiment trouver une note positive pour finir, il y en a une, effectivement, et je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christine quand elle disait tout à l'heure c'est au fond la même ritournelle tous les 5 ans. Je pense que depuis 5 ans, il s'est passé quelque chose dans la perception que les Français et les Européens, mais les Français en l'occurrence, ont de l'Europe, c'est qu'ils ont, et je pense qu'Emmanuel Macron y a puissamment aidé, ils ont, je crois, compris, intégré le fait que l'Europe est la bonne échelle pour régler les défis du temps présent et de l'avenir. Que ce soit le terrorisme, que ce soit l'immigration, que ce soit le climat, etc., etc. Ça, je crois que ça a été maintenant parfaitement intégré. En revanche, ce qu'ils ont constaté, et ça depuis une dizaine d'années, et l'épisode du référendum de 2005, corrigé par le traité de 2007, a été un peu dévastateur sur un plan démocratique pour beaucoup. Ce qu'ils ont compris depuis parallèlement à cette prise de conscience, c'est que l'Europe a le plus grand mal à avancer de concert pour résoudre ces problèmes. Qui sont précisément ceux qu'elle devrait et que Christine citait, notamment pour ce qui est du climat, pour ce qui est
Par ailleurs, Christine Ockrent, ne soyons pas trop franco-français, ne faisons pas trop d'ethnocentrisme, parce qu'il suffit d'aller regarder en Allemagne pour regarder leur campagne électorale à eux, pour voir que la plupart des partis allemands aujourd'hui jouent la carte de l'Europe. Il n'y a plus que les populistes de l'AFD qui se démarquent en réclamant le déclin.
Qui sont plutôt en déclin.
Et qui sont plutôt en déclin.
Relatif.
En déclin, mais c'est
enfin, en léger retrait. En léger retrait. Christine Ancret, un mot sur cette campagne allemande.
Oui, et ce que l'on constate, et on l'avait déjà vérifié lors des élections régionales en Bavière, les Verts, les écolos allemands, qui, comme dirait Dani Cohn-Bendit, eux, sont des Verts intelligents, les Verts, en Allemagne, sont dans une position de force. C'est la même chose en Belgique, où les Verts, en plus pour une fois wallons et flamands, ont l'intelligence de se mettre sous le même chapiteau. Donc on voit bien que dans différents pays européens qui nous entourent, il y a là une dimension politique qui s'affirme de façon plus décisive qu'en France, en tout cas.
Dominique Régnier.
Non, ce qu'on va voir le 26 mai, c'est que les Verts ont échoué à l'échelle de l'Europe. Hein. Ils ont réussi en Allemagne parce qu'ils ont piqué l'électorat des sociaux-démocrates, mais ils ont échoué en Europe. Ils auront à peu près le niveau de 2014, peut-être un peu moins.
Ah bon ?
Nous verrons. Allez, nous passons à la deuxième partie de l'esprit public. On va quitter le vacarme politico-médiatique de cette campagne. On va changer d'ambiance, direction la cour de l'hôtel des Invalides mardi, l'immensité aride et plate du Sahel, le chagrin du deuil et l'héroïsme du soldat.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Il écrivait juste, cet éditorialiste du Parisien, qui soulignait cette semaine le contraste entre les battleurs politiques, polémistes compulsifs et experts en coups de gueule saturant l'espace public, et le silence soudain, le visage dissimulé des forces spéciales françaises portant mardi matin dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, les cercueils drapés bleu, blanc, rouge de leurs frères d'armes tombés au combat, deux soldats devenus héros de la France au Burkina Faso, tués lors d'une opération visant à libérer des otages, dont deux touristes français. Le silence, après quelques jours de polémique tellement française, sur le thème « la valeur d'une vie », celle de deux touristes imprudents ou pas d'aller se balader dans le dangereux Sahel, et celle de deux admirables soldats qui connaissaient les risques du métier. Mardi pourtant, la France avait serré les rangs, retransmission télévisuelle, grande solennité, discours présidentiel réussi, émotion collective devant les cercueils, les chants militaires, les larmes et les accolades entre familles des défunts et couples présidentiels. Que disait donc de notre pays, cette armée qui faisait son retour dans le cœur des Français et ces nouvelles figures du héros qui s'appelaient Arnaud Beltrame, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. L'armée n'avait jamais été aussi populaire, avec 90% d'opinions positives, quand tant d'autres institutions étaient décriées, et les signes extérieurs du patriotisme, drapeaux, marseillaises, semblaient retrouver une nouvelle jeunesse, tandis que l'on comptait de nombreux candidats au statut de réservistes. Des armées tellement consensuelles qu'elles servaient aussi la popularité fragile des présidents de la République. François Hollande, par exemple, n'avait jamais été aussi populaire que lorsqu'il avait pris la décision d'intervenir au Mali ou pendant les attentats terroristes de 2015. Comme si les valeurs de courage et d'abnégation, mais aussi de discrétion, fascinaient une époque qui était tout le contraire.
Une vie arrêtée, en pleine jeunesse, en pleine conscience aussi, n'est pas une vie perdue. Une vie donnée n'est pas une vie perdue. Celui qui meurt au combat, dans l'accomplissement de son devoir, n'a pas seulement accompli son devoir, il a rempli sa destinée. Ce n'est pas un sacrifice, non. C'est le sens même de l'engagement, la part tragique de la mission. Cette indicible part obscure de l'engagement, celle qui fait sa force et sa clarté, celle du don que chaque soldat, à chaque mission, consente à la nation. Et notre pays sent bien, notre pays sait bien, dans ses profondeurs, que votre exemple nous sauve tous. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne, en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat.
Voilà Emmanuel Macron, bien sûr, mardi, dans la cour de l'hôtel des Invalides. Thierry Pêche, la France est-elle en quête d'héroïsme ? Est-ce que cela vous semble étonnant que cette France de 2019 renoue avec une certaine forme de patriotisme ou du moins d'admiration pour les héros militaires ?
Je pense que les démocraties ont besoin de moments où elles s'arrachent au désenchantement qui est l'ordinaire tout de même de leur histoire ces dernières décennies. Et ces moments où on salue l'héroïsme de gens qui nous ont quittés pour nous protéger font partie de ces moments-là. J'ai le souvenir, en écoutant le président de la République, des mots de Périclès devant la dépouille des soldats athéniens dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Des mots que Thucydide prête à Périclès. Périclès salue les dépouilles. Il fait le portrait de la cité démocratique. Et il dit « Voilà la cité dont ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller. » Eh bien, nous revivons ce moment à chaque fois. Et c'est terrible, c'est très triste, et en même temps, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça rompt la pauvreté symbolique de démocratie libérale dont l'identité pourrait passer pour n'être pas plus que des procédures et du droit, alors qu'il y a quelque chose d'autre et de plus haut qu'on perçoit dans ces moments-là, et je crois que c'est important. On perçoit quoi ? On perçoit qu'on participe d'une histoire beaucoup plus grande que celle qu'on imagine, disons, dans le cours quotidien des travaux et des jours. Et cette histoire, tout à coup, nous apparaît comme une épopée. J'avais un professeur d'histoire latine qui disait « Pour faire de l'épopée, il faut être plusieurs. » Et d'ailleurs, remarquez une chose, le sport a pris la place de l'épopée, et c'est pour ça que le principal journal qui parle de sport s'appelle « L'Équipe », qui est un anagramme de « L'Épique ». Et ça nous avait frappé, il avait beaucoup de talent, ce professeur, mais je crois qu'il disait quelque chose de très vrai. Pour faire de l'épique, il faut être plusieurs. Et dans ces moments-là, nous nous sentons puissamment ensemble. Donc nous avons besoin de ces moments dont pourtant nous devrions pouvoir nous passer, mais ils nous font quelque part du bien, et c'est une façon heureuse aussi de les traverser et d'y survivre.
Dominique Régnier, sur ces moments de deuil pour recréer du lien civique ou recréer ce sentiment d'appartenance citoyenne?
Oui, je m'inscris dans le prolongement de ce que vient de dire Thierry Pech. Je voudrais ajouter que c'est aussi... Alors, on ne peut pas s'empêcher de dire son admiration pour ces deux héros et ce commando Hubert et tous ces soldats. Mais je vois aussi dans ce moment-là une sorte de d'interstice par lequel on voit une vérité. Et il me semble qu'elle est en train de s'installer. Cette vérité, elle n'est pas d'ailleurs méconnue, mais on l'a un peu perdu de vue. Cette vérité, c'est que la réalité de l'histoire, c'est quand même aussi la guerre. Et puisque nous avons parlé d'Europe et que nous parlons de nos héros, l'Europe, et c'est son triomphe, nous a fait oublier que la réalité de l'histoire, c'est le surgissement récurrent de la guerre. Et il y a une sorte de réarmement psychologique et moral dans le pays. Vous en avez cité d'ailleurs des illustrations dans votre propos introductif. Et il me semble que de cérémonie en cérémonie, nous sommes un peu plus souvent, un peu plus réellement devant cette vérité. Dans la théorie des relations internationales, on considère qu'il n'y a jamais véritablement la paix. Il y a des États qui se rétablissent d'une guerre, il y a des États qui préparent éventuellement la guerre, mais il n'y a jamais vraiment la paix.
Même si en l'occurrence ce ne sont pas des guerres interétatiques, mais des guerres contre des organisations terroristes dans cette
affaire. Mais ce sont des guerres et des soldats meurent au combat. Et dans un contexte comme aujourd'hui, où au fond, en 2017, les dépenses militaires mondiales ont augmenté, en 2018 aussi, c'est la deuxième année consécutive, ça a été souligné, jamais on n'a dépensé autant en 2018 dans le passé depuis 1988. Il est en train de se produire quelque chose qui a bien à voir avec le retour de la guerre sous des formes différentes. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait l'étonnement et une sorte de tension collective qui est une tension, je dirais, moi, bienvenue, parce que c'est une vérité. Et je voudrais terminer en soulignant une formule un peu étrange, parce que on dit aujourd'hui c'est l'armée de métier. Mais tout ce que le président de la République a dit dans l'extrait que nous avons entendu, tout ce qu'ont fait ces hommes, ça ne peut pas s'apparenter à un métier. Il y a quelque chose là qui est, je dirais, trop à l'écart. Il y a bien plus que cela. On ne prononce pas de tels mots pour saluer quelqu'un qui a bien fait son métier. Il y a plus que cela, et c'est cette espèce d'au-delà de l'activité professionnelle et du métier, évidemment quelque chose qui a à voir avec la vocation, l'héroïsme, ce sont de très grandes valeurs, où l'existence se déploie entièrement, c'est cela aussi qui fait retour parmi nous.
La réalité de l'histoire, c'est la guerre, rappelait Dominique Régnier. Christine O'Krent, c'est cela en effet que nous rappelle ce genre de moment d'unité nationale. C'est aussi l'intrusion de la mort et de ce rapport très particulier et très ambigu que nous avons à la mort aujourd'hui, que nous ne supportons pas de voir ressurgir.
Oui, mais c'est surtout le rappel que la France est en guerre. La France est en guerre dans le Sahel depuis 2014. Ces deux héros sont tombés dans l'opération Barkhane, qui a été déclenchée en 2014, qui avait pour but de contrôler le nord du Mali et d'empêcher ces mouvements djihadistes, Touareg, et les experts se disputent sur le fait de savoir si oui ou non c'est lié à Al-Qaïda et à Daesh, et de plus en plus on vérifie que oui, c'est lié à Al-Qaïda et Daesh. On voit maintenant que cette opération s'enlise parce que au lieu de contrôler le nord du Mali, ils sont maintenant obligés de contrôler le centre avec le nouveau front qui s'est ouvert au sud, au Burkina Faso, et c'est là où Pierre Pont et Marcelo sont tombés. Donc la France est en guerre et on ne s'en rend pas assez compte. Et c'est une opération qui est très coûteuse en moyens humains, qui est très coûteuse en moyens financiers. La France est très seule dans cette guerre, même si on s'appuie, et ça a été le cas aussi dans ce dernier épisode tragique, sur les drones américains et sur quelques soutiens européens, mais qui sont vraiment très frileux. Moi, j'ai été très frappée quand le président Macron avait été à N'Djamena en décembre dernier. C'était au moment de l'attentat de Strasbourg. Et il avait dit, eh bien, on se bat contre le terrorisme comme à Strasbourg. C'était, comment dire, un propos assez difficile à comprendre, parce que c'est une forme de terrorisme, celui-là, qui pour le moment n'a pas frappé en Europe, et c'était peut-être un peu excessif que de comparer ces deux événements qui, dans le temps, étaient concomitants. Mais il faut bien qu'on se rende compte que la France est en guerre, et que donc ce besoin d'héroïsme ne saurait être détaché d'une réalité quotidienne pour 2400 hommes qui sont dans des conditions épouvantables et avec un risque d'enlisement, parce que quand on voit l'échelle du problème, l'échelle de cette Afrique subsaharienne, on a mis au point quelque chose qu'ils appellent le G5 Sahel à partir de la Mauritanie. Donc ça va de la Mauritanie à la Corne de l'Afrique. On ne voit pas comment une telle opération militaire peut véritablement aboutir, mais il ne faut pas se tromper. Nous sommes en guerre, et ce ne sont plus les guerres classiques, ce sont des guerres dites asymétriques et avec des mouvements djihadistes qui bénéficient aussi des réseaux sociaux et dont il ne faut pas non plus minorer l'importance dans les guerres contemporaines.
Qui connaît vraiment en effet en France, et quels médias parlent en effet régulièrement, à quelques exceptions, de Serval, de Barkhane, du G5 Sahel? Cela qui nous ramène peut-être à notre premier thème de cette émission. On n'a pas parlé non plus du tout d'armée européenne dans cette campagne électorale, et il y a comme une sorte de décalage entre voir mesurer l'intérêt au fond et finalement des Français pour ce qui a pu se passer cette semaine dans la cour des Invalides, et l'absence totale de débat sur ce que doit être demain la défense française ou la défense européenne, et où la défense européenne.
Je voudrais prolonger ce qu'ont dit les intervenants précédents, tous. Je crois que effectivement, la France est en guerre, mais elle ne l'est pas seulement, et je crois que c'est ça qui a vraiment changé le regard porté sur l'armée et sur l'engagement militaire et sur les exigences et les sacrifices de l'engagement militaire, c'est les attentats en France, sur le sol français. Il y a bien sûr l'intervention au Mali et au Sahel, mais avec son prolongement et d'un seul coup, la guerre qui était lointaine, extérieure, professionnalisée, entre guillemets, est devenue quelque chose qui frappait douloureusement, brutalement, violemment, en France,
sur le sol
directement.
Français.
Et je pense que ça énormément contribué à changer le regard porté sur l'armée. Si on fait un tout petit retour en arrière, je veux dire, il est évident que ça va être un flashback un peu long, mais un peu loin, mais un peu lointain, mais quand même, je veux dire, pour des générations, la Première Guerre mondiale, la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, a nourri un antimilitarisme, un pacifisme d'une part, mais aussi un antimilitarisme puissant. Cet antimilitarisme a été réactivé par la sale guerre d'Algérie, pour d'autres générations. Et on a vécu, après la guerre d'Algérie, dans les années 60, 70, 80, sur cette espèce de rejet, d'occultation de l'armée. Et de ce qu'elle signifiait. Et la traduction, au fond, a été la suppression du service militaire à la fin des années 90 par Jacques Chirac. Voilà. Mourir pour la patrie, c'est une affaire de professionnel. Je partage ce que disait Dominique Régnier sur le caractère au-delà du professionnalisme et de l'armée de métier. Mais voilà, c'était plus notre affaire. À partir du moment où la guerre redevient effective, palpable, directement, je veux dire, ça redonne sens à ce qui avait perdu sens. C'est-à-dire que la guerre était devenue pour beaucoup quelque chose d'absurde ou de lointain, elle est devenue quelque chose d'immédiat, de concret, et qui nécessite une riposte.
Elle est redevenue familière.
Elle est redevenue, elle a réintroduit le tragique de l'histoire dans ce que disait Thierry Pêche au début, dans des sociétés qui en avaient perdu le sens. Et j'ajoute un mot, moi ça m'a fait, en écoutant le président de la République dans cet hommage rendu mardi. Mais dans de précédents hommages ou interventions qu'il a fait sur le sujet, à ce qu'il disait, je retrouvais une très longue interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, à l'été 2007, peu de temps après son élection. 2017, pardon. Et il avait un très long dégagement sur le besoin d'héroïsme dans les sociétés contemporaines. Il disait, notre société a besoin de récits collectifs, de rêves, d'héroïsme, afin que certains, alors c'était une des justifications, afin que certains ne trouvent pas l'absolu dans les fanatismes ou les pulsions de mort. Et il développait cette idée d'un besoin d'héroïsme et de valeurs supérieures dans des sociétés qui avaient perdu le sens de l'histoire ou du tragique de l'histoire.
Thierry Pêche.
Il ne faudrait pas donner le sentiment qu'on court après de nouvelles fureurs héroïques, comme on disait à l'âge classique. C'est jamais par plaisir. Et donc l'héroïsme, comment dire, une valeur trouble, parce qu'à la fois c'est le moment d'éclatement suprême de la liberté et le moment qu'on aimerait pouvoir éviter, puisque la vie ordinaire ne passe pas par là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de la guerre. Celle de 14 n'a bien sûr rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre. Au fond, le problème auquel on est confronté, c'est comment habiller le sacrifice, la violence et le sacrifice, d'une épaisseur symbolique qui ne les rende pas vains. J'avais souvenir, en écoutant Gérard, des dernières lignes du grand essai de Ernst Kantorowicz sur « Mourir pour la patrie ». Il disait « Il faut que nous donnions du sens » à ces événements, sinon ils seront un jour réduits à un accident de la circulation politique, un jour de fête légale. Et c'est à ça que nous sommes confrontés. Bien sûr qu'au Sahel, les deux soldats qui sont tombés n'étaient pas les premiers, je crois que 27 autres sont tombés dans des opérations.
Il y a 4500 soldats aujourd'hui, voilà. Je me suis trompé sur le chiffre.
Et on n'est pas loin d'une trentaine de morts, donc c'est pas nouveau. Mais le défi que ça nous impose, c'est de donner du sens à ce qui se passe là-bas. Quand deux hommes tombent, pourquoi sont-ils tombés ?
Une c'est vie ça qu'il donnée faut n'est dire. Pas une vie perdue à prononcer, oui, c'est je ça. Crois, mais dans c'est, son c'est, discours, c'est le président de la République.
C'était le problème de Périclès, je disais, dans la guerre du Péloponnèse, c'est toujours le nôtre. De quel sens habiller le sacrifice ? C'est ça qu'il faut dire à la population. Alors après, la guerre. Attention tout de même. D'abord, c'est pas la même. Il n'y a pas une continuité historique de la guerre. On voit bien qu'on a affaire à tout à fait autre chose. La France vient en appui à des États quasi faillis pour rétablir sur leur territoire un ordre public, une paix civile dont on sait que nous subirons aussi les conséquences s'ils sont durablement mis en cause. Donc c'est ça qu'on fait. Et donc c'est pas la guerre à l'ancienne. Et il faut pas oublier de dire que dans ces situations-là, dans ces états-là, le règlement, enfin rien ne se fera sans les militaires, mais les militaires ne suffiront jamais à trouver la solution. Ce sont des déchirements interethniques aussi qui sont sous-jacents à ces violences. Donc on y est probablement pour longtemps et ça ne suffira pas d'y être avec des bottes et des fusils.
Et il y a également, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure, Dominique Régnier, ce changement fondamental quand même dans les mentalités françaises entre ce pacifisme historique après la Première Guerre mondiale dont vous parlez tout à l'heure, Gérard Courtois, et le fait qu'aujourd'hui, dans ce fameux baromètre du Cevipof qui est annuel, chaque année on constate que l'armée fait partie de ces institutions de la République qui recueillent le plus de confiance chez les Français. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, observé ces dernières années.
L'armée, la police, qui sont les institutions qui sont en effet au top de la confiance, et c'est à mettre en relation, et ça crée parfois des malentendus, c'est à mettre en relation avec la montée d'une demande d'autorité que je crois on confond parfois avec une demande d'autoritarisme qui est sans doute une forme de demande d'ordre, mais aussi d'efficacité publique et de sens politique du commun. Ça fait partie des dans l'opinion de façon très certaine, ça, hein, parce que les données sont très impressionnantes. Il faut imaginer que nous trouvons autour de 80 à 90% des personnes qui font confiance à ces institutions-là. Donc on est dans des
niveaux... Pourtant, le soutien aux Gilets jaunes pendant si longtemps semble contradictoire.
Le soutien aux Gilets jaunes comprend peut-être aussi, mais là je ne pense pas qu'on ait le temps de développer cet argument,
une
demande
confirme.
D'autorité qui pourrait, elle, être plutôt une demande d'autoritarisme.
Merci beaucoup à tous les quatre. On va se quitter sur la somptueuse musique et la voix magnifique de Rokia Traoré, qui est justement une chanteuse du Sahel, une chanteuse malienne. Je voulais vous recommander le grand livre de l'Afrique qui a été publié ces derniers jours chez Erol, de Nicolas Normand, diplomate et qui a été ambassadeur en Afrique du Sud, au Mali, précisément au Congo, au Sénégal, en Gambie. Un livre passionnant qui a été préfacé par Éric Orsenna. Merci à tous les quatre. Dimanche prochain, bien sûr, allez voter pour ces élections européennes. Vous avez le choix, puisque précisons-le, rappelons-le, il y a 34 listes alors aux urnes citoyens d'Europe. Quant à nous, dimanche prochain, dans l'esprit public, en ce jour de vote où, on le sait, il est interdit de parler politique, et bien ça tombe bien puisque nous serons aux Assises internationales du roman à Lyon pour un esprit public en public. Venez nous rencontrer, nous serons aux Subsistances et Olivia Gesbert vous donne rendez-vous dimanche soir pour la grande soirée électorale de France Culture. Dans notre esprit public, la semaine prochaine, nous serons avec vous, Christine Ockrent, avec vous aussi, Gérard Courtois, avec Bertrand Badi, avec l'écrivain Geneviève Brisac. Et nous nous demanderons tous les quatre si l'époque est romanesque. À dimanche prochain donc. Tout de suite, c'est Caroline Brouet pour Les Bonnes Choses et elle nous parle aujourd'hui évidemment de la gastronomie européenne. À dimanche prochain. Oh,
Konyo muso poka dine ya poka dine.